Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Le 27 janvier prochain aura lieu la Journée internationale de commémoration mémoire des victimes de l'Holocauste. Cette journée a été instituée le 18 octobre 2002 par une déclaration des ministres européens de l'éducation. La date du 27 janvier a été choisie spécifiquement par la France et l'Allemagne. Les autres pays ont eu le choix en fait de cette date. Pourquoi le 27 janvier ? Il s'agit d'une date extrêmement symbolique car elle correspond à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, symbole de l'extermination de millions de juifs, mais aussi de tziganes, de russes, d'homosexuels et autres hommes considérés comme, par les nazis comme des sous-hommes. Et au fil de ces dernières années, j'ai accueilli dans cette émission des artistes et des historiens de la musique qui sont venus nous parler de cette sombre période où la musique côtoyait la mort, où le fanatisme se déclamait sur fond de musique martiale, où les condamnés à mort partaient vers leur dernier lieu au son d'un orchestre. Parmi ces spécialistes de la musique des camps, j'ai eu le plaisir d'accueillir Bruno Giner pour son livre « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis ». Et puis vous, Élise Petit, qui êtes présente ce soir dans ce studio, je vous remercie d'être là, parce que vous êtes donc d'abord en 2015 co-auteur avec Bruno Giner d'un ouvrage intitulé « Entartete Musik, musique interdite sous le Troisième Reich ». Et ce soir, vous venez présenter votre nouveau livre, un livre absolument passionnant qui s'intitule « Musique et politique en Allemagne, du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide ». Ce qui veut dire à peu près des années 1933-1949, si je ne me trompe.
Exactement.
Alors, ma première question, elle sera toute simple. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Quelles recherches, quelles ressources a nécessité ? Parce que c'est quand même une somme, vraiment.
Alors c'est issu d'un projet de thèse et en fait dès mon mémoire de maîtrise quand j'étais en musicologie, je m'intéressais au lien entre musique et politique et j'ai commencé souvent comme tous les gens qui s'intéressent au sujet de la musique dans des camps par étudier Brundibar, l'opéra qui avait été donné dans le camp de Térésine et puis finalement je me suis rendu compte que cette histoire de propagande a été très présente aussi dans l'Allemagne nazie donc j'ai décidé de creuser cette voie et c'est pour ça que je me suis attelée à ce projet de thèse. L'intérêt était aussi de montrer surtout l'imbrication entre les enjeux politiques et esthétiques après la guerre, puisque ça a été étudié par des chercheurs allemands, mais jamais en relation avec ce qui s'était fait sous le Troisième Reich. Donc l'intérêt pour moi, c'était de montrer que finalement, cette heure zéro qui soi-disant commence en 1945 n'a pas vraiment eu lieu et qu'on ne peut pas faire table rase entièrement d'un passé sans s'en inspirer ou en tout cas essayer de le rejeter. Donc c'était vraiment l'intérêt de l'ouvrage, de montrer l'intrication entre musique et politique sous des régimes politiques très très différents.
Alors ce que vous appelez hors zéro, c'est évidemment cette volonté, après la guerre, après toutes les horreurs commises, de remettre les pendules à l'heure, de dénazifier complètement, de repartir sur une base complètement nouvelle. C'est ça que vous appelez Stunde Null,
voilà,
crois, en allemand.
Exactement.
L'heure zéro. Et on verra, et c'est tout à fait passionnant dans votre livre, que c'est pas si simple. En fait, les pendules n'ont pas été forcément remises à l'heure.
Voilà.
Elles sont reparties dans un sens ou dans un autre. Alors, comme je l'ai dit, votre livre est passionnant. On peut le prendre de plein de façons. Et je vous propose de faire, comme c'est l'habitude dans cette émission, une première pause musicale avec un extrait emblématique de ce qui était considéré par les nazis comme de la musique dégénérée. Il s'agit de Johnny spielt auf, un opéra d'Ernest Krenek, donc créé le 10 février 1927 au théâtre municipal de Leipzig par Gustav Brecher.
Thank you. stellt die Meere Christ. Oh Maria, so ist gut, oh you know I love you. Lass mich hinein, einmal die schöne Geige sehen.
Du bist wohl verrückt, jeden Augenblick kommt er vom Konzert zurück.
Un extrait de Joni Spieldorf, un opéra d'Ernest Krenek, écrit en 1927, extrait du CD Joni Spieldorf du même nom, publié chez Decca dans sa collection Entartete Musik. Decca qui a publié de nombreux disques consacrés, je pense, aux compositeurs de la Shoah, compositeurs dits dégénérés, dans cette collection. Alors, Élise Petit, ma question, elle est très simple. En quoi cette œuvre était-elle considérée par les nazis comme le symbole de la dégénérescence? En quoi était-elle dégénérée?
Alors c'est une œuvre très représentative, même si elle a été composée avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, car elle s'inspire du jazz, donc c'était un genre très en vogue, notamment parmi la jeune génération et auprès des artistes de musique savante dans les années 20. Donc on entend très très bien cette influence du jazz avec l'utilisation des instruments spécifiques ou des modes de jeu, et en même temps elle se mélange avec de la musique savante allemande. Donc ça, pour les nazis, c'était vraiment le symbole de la dégénérescence qui s'annonçait, puisque le jazz s'immisçait dans le domaine savant et dans la grande musique allemande. Ce qui était aussi considéré comme de la musique dégénérée, c'était la musique des compositeurs juifs, ce qui n'est pas le cas de Krenek. Lui, il a vraiment été stigmatisé en tant que moderniste. Il y avait aussi les compositeurs qui étaient jugés comme trop modernes. Par exemple, Anton Webern, qui n'était pas juif, mais qui donc n'a pas été inquiété, mais sa musique était quand même jugée comme dégénérée. Et puis la musique des compositeurs communistes. Donc c'est un grand amalgame de tout ce que les nazis détestaient, en fait.
En fait, c'est aussi un rejet de la République de Weimar, parce que ce qu'on peut redire, c'est qu'à cette époque-là, la République de Weimar, après la guerre de 14-18, quand elle débute, bon, c'est un moment de crise politique, économique pour l'Allemagne, mais c'est en même temps un moment d'inventivité, de créativité. Il y a des expériences non seulement dans le domaine musical, mais aussi pictural.
Exactement, et c'est justement l'intérêt de cette période. C'est bien aussi, d'ailleurs, quand on s'intéresse au sujet de la musique sous Troisième Reich, c'est que ça nous permet de redécouvrir la musique des années folles à Berlin sous la République de Weimar, puisque justement c'était toute la musique que Hitler détestait. Donc il a vraiment construit sa politique musicale en désaccord total, en rejet total de ce qui s'était fait sous la République de Weimar.
Tout à fait. Et alors donc Hitler déteste cette musique, période extrêmement agitée, comme on l'a dit, pendant la République de Weimar. Il y a des attentats réguliers, il y a les Spartakis, il y a donc une menace aussi à l'Est avec le communisme qui est en train de monter. Et Hitler apparaît comme l'homme fort. Ce qui est assez effrayant dans votre livre, c'est qu'on voit que beaucoup d'Allemands ont voté pour Hitler en 33 sans être forcément un adepte de sa politique, notamment raciale, mais parce qu'il cherchait un rempart, un renfort contre les turbulences de ces années 20, ces années 30, avec la crise économique. Et donc, quand Hitler arrive au pouvoir, il va remettre à plat toute la politique musicale. Alors, quel est finalement l'idéal musical des nazis? Quel genre de musique ils ont privilégié et à quelle fin? Voilà.
Alors, c'est là justement qu'il faut aborder les deux hommes forts du régime en matière musicale. C'est qu'il y a vraiment deux tendances, ou deux courants, on pourrait dire. La tendance qui se rallie au clan de l'idéologue du régime, Alfred Rosenberg, qui lui prêche pour le salut de la race aryenne. Donc, pour ces gens-là, seule la musique composée par des compositeurs au sang pur, entre guillemets, a le droit d'exister. Donc ça, c'est une première tendance extrêmement conservatrice, donc avec de la musique uniquement par des compositeurs allemands, mais aussi qui tire ses origines dans les chants folkloriques. Et puis une autre tendance qui est du côté du ministre de la propagande, Joseph Goebbels, qui lui cherche plutôt à promouvoir différentes formes de musique, mais à les mettre au service du régime. Donc là, il y a une tolérance plus grande, dans un premier temps, pour des esthétiques un peu modernes et même pour des formes populaires comme la musique de jazz.
Dont on entendra tout à l'heure un extrait. Alors, justement, parmi ces compositeurs qui ont été mis en avant par le régime nazi, récupérés même pour certains d'entre eux, certains l'ont été plus que d'autres. Je pense notamment à des compositeurs comme Richard Strauss ou Karl Orff, qui ont été presque des emblèmes du régime nazi. Vous dites d'ailleurs, je crois que Hitler avait publié en quelque sorte une liste des compositeurs bénis, je ne sais plus le terme en allemand, mais...
Béni des dieux.
Voilà, béni de Dieu, sur lesquels figuraient notamment Karl Orff, Richard Strauss et encore d'autres. Je crois que c'était Hans Pfitzner, si oui. J'ai bien lu votre livre. Vous voyez que je l'ai lu entièrement. Et cette musique, en quoi se différencie-t-elle finalement de ce qu'on a entendu ? Là, c'est le jazz. Et au contraire, vous l'avez dit, c'est quoi ? C'est plus martial, c'est plus...
C'est souvent une musique qui doit tirer son inspiration d'une certaine forme de folklore. Donc, d'accord. Ce qu'on entend bien avec Karl Orff. Et c'est souvent une musique à l'esthétique assez simple et effectivement assez martiale, composée pour des grands chœurs, des grands orchestres, des grands effectifs, assez traditionnels en règle générale, et surtout qui ne soit pas trop dissonante, voire pas du tout.
Eh bien, on va entendre tout de suite un extrait donc de Carmina Burana, l'introduction au Fortuna, qui est peut-être le chœur le plus connu de cette œuvre, composée par Karl Orff dans les années 1935-1936. O Fortuna, extrait donc de Carmina Burana, une œuvre de Karl Orff dans un enregistrement ici de l'Orchestre symphonique de Bornsnuff, dirigé par Martin Alsop. Alors, on voit bien qu'on est dans une musique très grandiose. D'ailleurs, Richard Strauss, c'est aussi Ainsi par la Zarathoustra, que tout le monde a en mémoire, si vous avez vu le film, comment s'appelle-t-il déjà ?
2001, Odyssée de l'espace.
Voilà, c'est exactement l'ouverture de ce film. Une musique très, très grandiose, une musique qui parle à tous. Et une musique pour le peuple, une musique du peuple aussi, mais pour le peuple, considérée, je crois, comme une entité par les nazis. Il fallait surtout voilà. qu'il y ait aucune tête ne dépasse, et c'était le peuple. Et donc cette œuvre a été en fait créée en 1937 à Leipzig. Elle était probablement composée un ou deux ans avant. Et évidemment, comme on l'entend, la mélodie plutôt martiale est très loin du swing de l'œuvre de Krenek qu'on a entendu précédemment. On est plus dans, je pense, dans une œuvre tonale presque modale plutôt, très à l'opposé des œuvres atonales ou dodécaphoniques prônées par Schoenberg. Alors, mais je crois que cette œuvre a plu aux nazis et en même temps a donné lieu à certaines réserves, il me semble.
Alors c'est une œuvre un peu emblématique de ce qui se passait à l'époque pour la création musicale en général, c'est que presque aucun compositeur n'arrivait à faire l'unanimité au sein du nazisme, puisqu'il y avait toujours ces fameux clans qui s'affrontaient. Et donc, à la création de l'œuvre, le clan Goebbels prend fermement parti pour l'œuvre. Il dit que c'est une émanation de l'âme populaire. Mais le clan Rosenberg ne lui pardonne pas de s'être basé sur des textes un peu grivois, écrits par des Goliards au Moyen-Âge. Et puis, on lui reproche également une instrumentation peu conventionnelle, puisqu'il utilise deux pianos, sur le modèle un peu des œuvres de Stravinsky. Donc, il est, dans un premier temps, décrié par les partisans de Rosenberg. Et ce qui va le racheter aux yeux de ces gens-là, c'est que en 1939, il honore une commande du clan Rosenberg qui veut en fait remplacer la musique du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, puisque Mendelssohn étant juif, sa musique était interdite. Et Karl Orff est l'un de ceux qui compose une nouvelle musique pour le Songe d'une nuit d'été. Donc là, c'est vraiment une démarche très dans le sens du clan Rosenberg, et c'est ça qui va véritablement lancer sa carrière. Et à la suite de ça, ses Carmina Burana rencontreront un succès unanime. Mais ce que ça montre, c'est que finalement, c'est aussi quelque chose qui va permettre à presque tous les compositeurs allemands de se dédouaner après la capitulation de l'Allemagne. C'est que il n'y avait pas vraiment de compositeurs nazis, puisqu'il y avait toujours des attaques de la part d'un clan ou de l'autre. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de musique nazie, ni de compositeurs nazis qui sortent du lot, à part peut-être ces Carmina Burana.
Oui, c'est ce que vous dites fort bien dans votre livre, en fait, et que Hitler joue un petit peu sur ses oppositions, et il est là un peu en tant qu'arbitre entre Goebbels et Rosenberg, mais on ne sait jamais qui a le dernier mot, ce qui donne lieu à une incertitude totale, et en fait, il utilise cette fameuse maxime « diviser pour régner », c'est tout à fait dans cette optique-là, et ça stimule en plus les différents dignitaires qui sont employés pour le régime, qui proposent, selon leur conception, des choses qui plaisent ou déplaisent au Führer, et c'est aussi comme ça que vous l'avez fort bien dit, les compositeurs ont pu se dédouaner après la guerre en disant voilà, vous voyez, on était en but nous aussi à des controverses et à des attaques de la part de Hitler.
Et c'est ça aussi qui permettra de comprendre que sous ce régime, le jazz a été parfois interdit, mais jamais vraiment totalement. Donc des genres qui ont été décriés ne seront pas forcément toujours interdits. C'est pour ça que parfois on tombe sur des paradoxes qu'on ne comprend pas bien et qu'on peut comprendre maintenant à la lumière de ces luttes d'intérêts.
Complètement. Alors c'est là, on va aborder cette question du jazz, parce que ce qui est assez incroyable en lisant votre livre, c'est que il y a tout un passage qui est consacré au jazz nazi. Alors je vous avoue, je ne savais même pas. Pour moi, bon, les nazis avaient rejeté le jazz complètement comme de la musique dégénérée. Et je vois que ils ont encouragé la création de groupes de jazz, donc notamment Goebbels, et qu'il y a eu même une radio de propagande en anglais. Qui jouait du jazz. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cette histoire complètement incroyable ?
Voilà, alors ça me permet aussi de rappeler que ce concept de musique dégénérée est un concept forgé par le clan Rosenberg et pas par Goebbels, justement, même si après lui aussi l'a utilisé. Mais en tout cas, cette question du sang impur, c'est vraiment quelque chose du clan Rosenberg. Goebbels, lui, ce qu'il cherchait, à rallier les Allemands au régime nazi et à finalement charmer un peu aussi ses opposants politiques. C'est un stratège. Il s'est rendu compte que si on interdisait totalement le jazz, les jeunes Allemands allaient essayer d'en écouter sur d'autres ondes et qu'ils capteraient les ondes étrangères. Et le régime nazi n'avait aucun intérêt, surtout après 1939, à ce que les Allemands captent les ondes étrangères. Donc, il a pris le problème à bras-le-corps et a décidé de créer sa propre station, qui était une station qui émettait dans différents pays ennemis dans la langue de l'ennemi. Donc, il y avait une station qui émettait en anglais, mais il y en avait aussi qui émettait en français ou même en japonais à un certain moment de la guerre. Et ces stations diffusaient certaines musiques, dont l'émission Germany Calling, qui diffuse des extraits de jazz, donc qu'on considère aujourd'hui comme du jazz nazi, et qui est du jazz de propagande, visé essentiellement contre Churchill et Roosevelt.
Mais alors, ce qui est absolument diabolique en plus, c'est que dans votre livre, vous dites que ces radios, je pense notamment à la radio donc qui émettait en anglais, cette radio de propagande, utilisait en quelque sorte les lettres des prisonniers britanniques qui étaient lues à cette radio. Et comme évidemment la famille de ces prisonniers voulait avoir des nouvelles d'eux, ils écoutaient beaucoup cette radio nazie, des fois qu'une lettre d'un de leurs proches, de leur fils, de leur père soit lue. Et entre ces différentes lectures de lettres, il y avait donc des pauses musicales, il y avait toutes sortes, et puis de la propagande, absolument. Et ces pauses musicales étaient incroyablement bien conçues, parce que c'était du jazz. Alors, vous le dites dans votre livre, jazz nazi, parfois on entend par là un jazz sur lequel on enlevait un peu de swing, mais parfois c'est carrément des reprises de standards de jazz.
Alors, en général, ce sont des reprises de standards. C'est vrai que pour un spécialiste, un spécialiste dira que ça ne swing pas vraiment beaucoup, mais ce sont quand même d'excellents musiciens de jazz qui jouent. Ils se basent toujours sur le même système. Ils reprennent quelque chose d'existant, parfois directement avec des paroles modifiées, ou parfois en jouant carrément le premier couplet, ou en le faisant entendre avec les paroles d'origine, et puis en introduisant une pause qui dise voici la nouvelle chanson de Monsieur Churchill ou de Monsieur Roosevelt.
Alors, vous donnez l'exemple de Stormy Weather dans votre livre, donc un temps de tempête, et puis les paroles sont changées. C'est un temps de tempête pour tous les bateaux anglais, américains, qui sont tous en train de couler parce que les bateaux allemands sont en train de les envoyer vers le fond.
Donc voilà, c'est toujours Churchill qui se lamente. En général, ça donne une image de Churchill complètement alcoolique et très peu courageux. Et puis, ça s'attaque aussi au bolchevisme, ou à ce qu'on appelait à l'époque, ce que les nazis appelaient la juiverie internationale, et donc ça cible aussi Roosevelt.
Alors, juiverie internationale, bolchevisme, on va justement parler en écoutant un troisième extrait, donc un troisième exemple musical que vous nous avez apporté, qui est tout à fait parlant. Il s'agit d'un groupe de jazz donc nazi qui s'appelle Charlie and His Orchestra, et qui va interpréter, alors ça m'a sidéré, donc sur l'air de Beimir Bizouchen, la chanson Beimir Bizouchen, c'est un morceau de jazz, mais sur une mélodie d'un compositeur juif qui s'appelle Sholom Sekunda. Le parolier aussi était juif, Jacobs. Et il va reprendre cette chanson. Et alors, qu'est-ce qu'il va en faire exactement?
Ce qu'on entend au début, juste après l'introduction instrumentale, c'est voici l'hymne des bolcheviks ou de l'international bolchevique. Et il reprend ses paroles d'une façon un peu incompréhensible en mélangeant du vrai texte et du texte modifié. Et globalement, ce qu'il dit dans son texte modifié, c'est nous sommes l'international bolchevique, nous sommes soi-disant de gauche, mais nous combattons la droite par le crime et le vol. Donc c'est aussi pour donner cette image des communistes qui s'allient aux juifs, parce qu'il cible aussi Roosevelt dans sa chanson, et c'est aussi un peu une forme pour terroriser la population allemande qui écoute ces ondes.
La population anglaise en fait.
Voilà, mais aussi allemande. Les Allemands, puisque les Allemands, certains ont réussi à capter ces ondes.
D'accord.
Et ont témoigné après la guerre avoir cru tomber sur une station étrangère.
C'est incroyable.
Le succès de
incroyable.
La politique.
Alors on l'écoute tout de suite, donc Beimir Bizouchen, interprété par Charlie and His Orchestra dans sa version nazie.
Here is the anthem of the International Brotherhood of Bolsheviks.
Es ist alles wurscht, c'est tout à fait égal. I don't care a damn, mean nicht so. And this nicht so, in case you don't know, is nil, nothing, naught, or just a O. We bear it on the banners of the world. Come in turn, such things as sickles and hammers tell the world it must learn. And so, Nietzsche vote, mankind is our foe. We don't care a damn, so Nietzsche vote. By uns is the shame, please let us explain. We comrades of Cain sont très, très chic. We fight for the left, with murder and with theft.
fight, for the right would not be right. Our land is bella, bella, it will soon be the world, because in London and in New York the red flags unfurled. We sing Nietzsche woe, so that you may know that life in our world is Nietzsche woe.
Maybe So Schön, un morceau de jazz nazi interprété par Charlie and His Orchestra, extrait du CD Swing Tanzen Verboten. Et c'est d'autant plus diabolique et dispetit que cette chanson, juste un mot sur la chanson, qui est d'abord une chanson en yiddish, donc écrite par ce compositeur juif américain dont on a parlé, Sholem Secunda, qui c'est pas aimé, mais sous shine, en fait, en yiddish, qui plaît tellement qu'il va être chanté un peu partout. Il va être chanté donc en allemand, avec By Me Bisous Schön, pour moi tu es belle. En français, il va être repris par Léo Marjan également, juste avant guerre en 1938. Donc c'est un air qui est vraiment connu partout. Et ça, c'est tout à fait le machiavélisme des nazis. C'est d'arriver à faire chanter des gens et de leur glisser les paroles sous une musique entraînante. Et ces paroles, quand on les écoute, c'est vraiment, on l'entend, Le drapeau rouge qui flottera bientôt à Londres et à New York. Enfin, voilà, c'est...
Et alors ça découle vraiment de ce qu'avait écrit Hitler dans Mein Kampf. À un moment, il dit, si on veut en gros rallier nos ennemis à notre cause, il faut reprendre leur culture, reprendre leur patrimoine et donc reprendre leurs chansons en changeant les paroles, puisque ça va quand même éveiller une sympathie un peu inconsciente pour nos idées, puisqu'ils aiment la chanson. Et quand on lit les rapports envoyés par la radio anglaise au gouvernement britannique, ce qu'on voit dans les archives anglaises, c'est qu'ils sont extrêmement préoccupés par le succès de cette fameuse émission de Germany Calling, pendant laquelle Lord Ho-Ho, le présentateur qui était irlandais d'origine, lit ces fameuses lettres de prisonniers. Donc ils prennent l'affaire extrêmement au sérieux et ils sont eux au courant que c'est une radio de propagande, mais le public britannique pas forcément. Donc c'est vraiment, aujourd'hui ça peut un peu prêter à sourire cette initiative, mais à l'époque ça a suscité des craintes, en tout cas dans les plus haute sphère du gouvernement britannique.
Oui, j'imagine. Alors, votre livre parle aussi de l'embrigadement de la jeunesse, notamment à quel point ça a été bien fait, enfin mal fait, mais bien fait de façon, encore une fois, démoniaque, et comment les chants, le Volkslieder, les chants populaires ont été utilisés pour en quelque sorte enrégimenter cette jeunesse, presque les lobotomiser pour que, grâce à la musique, ils ne forment qu'un seul peuple. Un peuple, c'est une masse qui va aller à la guerre au nom de cette idéologie nazie. On n'a pas le temps de développer, mais si vous voulez dire quelques mots rapidement, c'est possible.
Oui, ce patrimoine donc, qui était jugé comme pur par les tenants de l'arianisme, c'était un patrimoine par contre qui existait. Donc on parle plutôt de répertoire nazifié finalement, avec l'exemple de l'hymne allemand qui à l'époque donc s'appellera le Deutschlandlied, le Deutschland über alles, mais qui est encore aujourd'hui l'hymne national allemand sous le titre de Deutschlandlied, puisque c'était un hymne qui était déjà utilisé avant l'arrivée des nazis au pouvoir. Donc ils l'ont récupéré, mais tout ce patrimoine folklorique existait bien avant leur arrivée. C'était un patrimoine qui était très connu par tous les Allemands et qui ne pouvait pas choquer au niveau de l'esthétique. Donc c'était la cible vraiment idéale qui a été récupérée. Il y a eu quelques chants nazis à proprement parler, avec des paroles vraiment de propagande, mais dans l'ensemble, c'est quand même ce répertoire existant de chansons enfantines qui a été utilisé pour embrigader ces jeunes Allemands, notamment au sein de la jeunesse hitlérienne.
Alors, cette propagande était tellement efficace que vous dites à la fin de votre livre qu'il y a eu des sondages qui ont été faits après-guerre, et les résultats étaient assez terrifiants, puisque finalement, une grande partie des Allemands de l'époque considéraient que Hitler n'était pas si mauvais que ça, mais qu'il avait été mal entouré et mal conseillé. Et même dans la jeunesse, on a Vous dites également que certaines personnes, pendant 30 ans, 40 ans après, se rappelaient encore de ces chants et les chantent encore tellement ça les avait marqués.
Voilà, ça c'est absolument effrayant et j'ai même une anecdote vraiment édifiante à ce sujet. Un jour, j'étais avec une amie allemande, donc qui elle est née à la fin de la guerre, donc elle n'a pas connu le régime hitlérien, mais on commence à chanter ces petites chansons populaires qui avaient été détournées par le régime et immédiatement elle se met à cuisiner, à faire la cuisine allemande. Donc il y a vraiment ce retour aux racines qui est ancré qui est attaché vraiment à ce répertoire et qui reste des années après.
Donc cette association entre musique et idéologie, musique et politique, c'est le titre de votre livre Musique et politique en Allemagne du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide. Je redonnerai les références bien sûr à la fin de cette émission, mais on va avancer. Et on va donc aborder la seconde partie de votre livre, qui est justement celle de la victoire des Alliés, celle de cette politique musicale de dénazification qui est mise en place donc après cette victoire. Pour rappel historique, donc la victoire, c'est le 8 mai et le 9 mai d'ailleurs, 8 et 9 mai 1945, puisqu'il y a eu deux dates de signature pour les Alliés, les Américains, Anglais, etc. Et pour les Russes, c'était pas le même jour. Donc l'Allemagne nazie signe une capitulation sans condition et elle est alors divisée en quatre zones d'occupation soviétique, américaine, anglaise et puis française. Mais alors que se passe-t-il au niveau musical dans chacune de ces zones ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que certains futurs occupants y avaient déjà pensé en amont. Les soviétiques, par exemple, avaient déjà construit toute une cellule en URSS qui était prête à arriver en Allemagne et à mettre en place la politique voulue, de la même façon que les Américains qui avaient aussi un peu pensé en amont. La France, elle, est très occupée par sa propre dénazification, sa propre reconstruction, donc met en place, elle aussi, des politiques musicales, mais de façon un peu plus tardive, on peut dire. Et puis, du côté des Britanniques, c'était absolument pas une priorité, donc les Britanniques vont avoir tendance plutôt à se calquer sur le modèle américain. Donc, les deux modèles qu'on aura en présence et qui vont bien sûr s'affronter, c'est le modèle américain et le modèle soviétique.
Alors vous dites dans votre livre que les Américains ont conservé une certaine distance dans l'occupation par rapport au peuple allemand voulu, distance qui leur a pas forcément facilité la tâche, alors que les Soviétiques ont été plus pour le coup plus intelligents puisqu'ils ont dans un certain temps repris des choses et ils ont accompagné le peuple là où ils voulaient l'amener. Mais du point de vue donc du ces deux, on va voir que c'est complètement deux axes divergents dans cette dénazification musicale qui vont être choisis par d'un côté le bloc, on va dire, américano-anglo-français, et de l'autre côté, le bloc soviétique. Avant qu'on détaille, on va entendre justement un des morceaux qui va être joué par un compositeur ô combien symbolique, c'est Arnold Schönberg. Alors, Arnold Schönberg, c'est le compositeur maudit pour les nazis. D'abord, il est juif. Il a inventé la musique atonale et dodécaphonique, donc tout ce que les nazis abhorraient. Et il va écrire une œuvre absolument bouleversante qui s'appelle en français « Un survivant de Varsovie ». C'est une œuvre pour narrateur, chœur d'homme et orchestre, donc composée en 1947. Une courte pièce qui dure à peine 7 minutes, mais d'une très rare intensité. L'histoire, c'est celle d'un survivant du ghetto de Varsovie, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Et le narrateur ne se rappelle même pas comment il a abouti dans les égouts de Varsovie. Mais un jour, dans le camp, les autorités nazies ont appelé donc un groupe de juifs. Et pendant qu'ils se rassemblaient, les gardiens, donc les nazis, ont battu les juifs les plus âgés et malades qui ne pouvaient pas suivre. Et ils les ont laissés pour morts. Et les autres, ils les ont donc amenés pour les déporter vers les chambres à gaz. Et donc les gardiens demandent un décompte de plus en plus rapide. Et l'œuvre culmine alors que les juifs qui commencent à chanter la prière Shema Israël. Donc c'est très très symbolique parce qu'il y a trois langues qui sont utilisées dans cette œuvre, écrite en hommage aux victimes de la Shoah. L'anglais pour le narrateur, qui raconte l'histoire pour qu'elle soit compréhensible. C'est une œuvre qui a été créée aux États-Unis. L'allemand pour le sergent nazi. Et l'hébreu, donc, pour la prière finale, le schéma Israël pour ces juifs qui vont vers la mort. On écoute donc un extrait de Survivant de Varsovie d'Arnold Schönberg.
Thank you. must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years, the forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw so long a time. The day began as usual, refanning when it still was dark. Get out! Whether you slept or whether worries kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep?
Arnold Schoenberg, Survivor from Warsaw, et ça raconte le soulèvement du ghetto, me dit Élise Petit en aparté.
Voilà, c'est basé sur un récit qu'un survivant de ce soulèvement aurait fait à Schoenberg aux États-Unis pendant qu'il avait à composer cette œuvre.
Alors vous voyez, cette œuvre, on a un retour dans les années 20-30 avec cette musique atonale, dodécaphonique, qui est remise à l'honneur. Alors justement, ça vient un peu illustrer la question que je voulais vous poser, c'est comment ça s'opère cette dénazification musicale finalement ?
Alors, c'est vrai que dans un premier temps, la question est quelle musique mettre en avant, puisqu'on est bien conscient qu'une musique née des ruines va quand même mettre plusieurs mois, sinon plusieurs années à émerger. Donc, ce qui est choisi, en tout cas dans le bloc occidental, c'est de mettre en valeur tout ce qui avait été considéré comme dégénéré, parce qu'au moins, là, on est sûr de pas se tromper. Donc, on met en avant tout ce que le régime nazi avait décrié. Au premier plan duquel Arnold Schoenberg. Alors pourquoi ils n'ont pas mis en avant par exemple Kurt Weill ou Hanns Eisler? Parce que ces compositeurs étaient quand même considérés comme des sympathisants communistes, donc on a cherché des compositeurs qui seraient plutôt dans le moule politique de ce que cherchait l'allié américain. Mais effectivement, c'est une remise à l'honneur de choses qui existaient. Il y a une grande remise à l'honneur du jazz aussi dans un premier temps. Et ce qui est intéressant avec le jazz, c'est que dans les premières années d'occupation, jusqu'à 1948, le jazz est mis à l'honneur dans toutes les zones, mais y compris aussi la zone soviétique. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande crispation qui s'installe entre les Soviétiques et les Américains, et donc ce qu'on appelle la guerre froide, qui va se décliner aussi dans le domaine musical, et qui va finalement un peu conditionner l'avenir de la création musicale en Allemagne.
Alors ça va se décliner comment ? C'est-à-dire cet affrontement politique sur le plan musical, ça va donner lieu à deux esthétiques en fait très opposées, je crois.
Deux esthétiques absolument opposées, liées en fait à un impératif des Américains, c'est de faire l'inverse de ce que font les Soviétiques. Et les Soviétiques, eux, ils prônent ce qu'ils appellent le réalisme socialiste, donc avec des critères musicaux assez proches finalement de ce que voulait le clan Rosenberg dans l'Allemagne nazie, des musiques qui s'inspirent du peuple, qui soient aussi un peu basées sur le folklore, qui soient faciles à entendre, donc pas de dissonance. La différence, c'est que ce sont des musiques qui doivent aussi louer l'occupant communiste et l'idéologie communiste. Et donc face à ça, les Américains n'ont d'autre solution qu'encourager une création apolitique. Et quoi de mieux dans le domaine apolitique que la musique atonale et la musique instrumentale, donc qui ne cherche pas forcément à délivrer un message et qui servent à promouvoir la modernité comme symbole de démocratie.
Alors, vous citez l'école de Darmstadt. Juste quelques mots sur cette école. Qu'est-ce qui s'y est passé?
Alors, c'est une initiative allemande, mais Darmstadt était en zone d'occupation américaine. Des anciens compositeurs qui avaient notamment officié sous le Troisième Reich ont proposé à l'occupant américain de bâtir des cours d'été qui accueilleraient la jeune génération de compositeurs, d'abord allemands, mais aussi des compositeurs européens, et de les initier à de nouvelles esthétiques, en prenant pour modèle d'abord Schoenberg et aussi Paul Hindemith, donc deux compositeurs absolument inattaquables. Et là où ça arrange les Américains, c'est que eux ont aussi une création musicale assez importante à cette époque dans leur propre pays, donc ils y voient aussi un moyen finalement d'exporter le modèle culturel américain, et c'est comme ça que l'Allemagne de Darmstadt découvrira le jeune compositeur qui s'appelait John Cage, par exemple.
Mmh. Vous dites même dans votre livre qu'il y a des voyages culturels musicaux organisés pour des compositeurs ou des officiels allemands pour leur montrer la culture de chaque pays, notamment aux États-Unis.
Voilà, ces voyages où on leur montre que les orchestres américains ont un excellent niveau, que les jeunes américains apprennent la musique savante, puisque les américains sont à l'époque extrêmement complexés par leur niveau en termes de musique savante. Ils sont encore stigmatisés par les Allemands comme un peuple sans culture, alors que c'est quand même, il y a une tentative de démocratisation de l'Allemagne, mais il y a cette image qui leur colle à la peau. Donc, ils organisent ces voyages pour que les Allemands changent de point de vue à ce sujet. Mais les Soviétiques font pareil en invitant en zone est allemande des Allemands à venir visiter leur pays et à s'inspirer de la culture.
Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de deux compositeurs, Kurt Weill et Hans Eisler, qui étaient plutôt communistes, qui ont dû quitter les États-Unis où ils s'étaient réfugiés pendant la guerre et qui ont finalement abouti en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire la zone soviétique. Et Hans Eisler va proposer donc aux soviétiques et au régime sous influence soviétique différentes compositions. On va en entendre une qui est tout à fait dans l'esprit de ce que vous avez dit. Il s'agit d'un morceau chanté qui s'appelle « Dank euch, ihr Sowjetsoldaten ». Nous vous remercions, vous les soldats soviétiques, tout à fait dans cet esprit de remerciements avec une musique populaire.
Dank euch, ihr Sowjetsoldaten. Wer hat vollbracht all die Taten, die uns befreit von der Front? Es waren die Sowjetsoldaten, die Helden der Sowjetunion.
Dank euch, ihr Sowjetsoldaten.
Wem dankt das Gute und Schöne, der deutsche Arbeitersohn? Er dankt es dem Blut der Söhne der Revolution.
Vergesst nicht das Blut der Söhne der Revolution, der Revolution.
Le début donc de ce chant composé par Hans Eisler. Alors vous m'avez dit, je crois que j'ai commis une erreur par rapport à Kurt Weill. Il n'est pas allé en Allemagne. Si vous
voilà.
Pouvez.
Alors en fait, Kurt Weill est mort en 1950, donc il n'est pas rentré en Allemagne. Mais par contre, Eisler a dû effectivement rentrer en Allemagne suite à son passage devant le comité des activités anti-américaines, qui était vraiment dans un contexte de chasse aux sorcières. Il a été stigmatisé comme le Karl Marx de la musique aux États-Unis et il a dû s'exiler. Finalement, ce n'est pas un choix. Par contre, ce qui est vrai, c'est que quand il est arrivé dans un premier temps, il était très courtisé par le régime est-allemand. Et donc, il, en tant que communiste, sympathisant communiste, pétri d'utopie, il a pensé qu'il pourrait un peu composer sa musique moderne en accord avec ses principes communistes. Et puis finalement, rapidement, il sera quand même stigmatisé à nouveau comme formaliste, puisque sa musique était considérée comme trop moderne.
Alors Hans Eisler, ce que je ne savais pas du tout, c'est que c'est lui qui a composé l'hymne national de l'Europe de l'Est, puisque cette partie qui va devenir une entité politique à part entière n'a pas d'hymne, et donc il lui faut en créer un, et vous nous avez amené cet hymne, donc on va l'écouter tout de suite. Alors il s'appelle Auferstanden aus Ruinen, ça veut dire...
Donc c'est ressuscité des ruines, et donc c'est l'hymne de l'Allemagne de l'Est, mais c'est un hymne qui s'adresse aux deux Allemagnes, avec cette belle utopie de la réconciliation. réconciliation, de bâtir une Allemagne unie. Et même dans le principe, cette œuvre a été conçue pour coller parfaitement aux paroles de l'actuel hymne allemand, qui était l'hymne d'Allemagne de l'Ouest. Donc, dans l'idée des auteurs, le jour de la réunification, c'était leur hymne qui devait l'emporter. Et ce qui aurait été beau, c'était que finalement, on prenne les paroles de l'hymne de l'Allemagne de l'Ouest et qu'on les calque sur cette musique qui est quand même magnifique. Et Eisler, je précise aussi, donc c'est le compositeur de l'hymne de la RDA, mais aussi quand même le compositeur du film Nuit et brouillard d'Alain René.
Alors on l'écoute. Début donc de l'hymne national de la RDA, Auferstanden aus Ruinen, donc extrait du CD Eisler, Woodbury Liederbüchlein. Donc ce CD de Heinz Eisler qui nous permet d'entendre cette musique qu'on n'entend plus aujourd'hui, parce qu'avec la disparition de l'Allemagne de l'Est, cet hymne qui ne rappelait pas des bons souvenirs aux Allemands qui ont dû subir après le régime vraiment très soviétique en Allemagne de l'Est, on désirait l'oublier. Alors, Élise Petit, comme la fin de cette émission approche, je veux juste dire un mot sur la dernière partie et la conclusion de votre livre, qui sont plutôt pessimistes, j'ai trouvé, hein, peut-être dans la période actuelle en plus, mais vous considérez la politique musicale de dénazification comme un échec, si j'ai bien suivi votre pensée, et vous parlez même, je vous cite, d'illusion de rupture et d'une politique qui s'inscrit finalement dans les ornières du nazisme. Alors, est-ce que vous pourriez juste nous dire en une petite minute ce que vous entendez par là ?
Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est que il y a eu quelque part un échec de cette dénazification dans le domaine politique et esthétique, mais par contre, ce qui est très important pour les Allemands, c'est que la dénazification a eu lieu sur le plan quand même psychologique. Les gens sont vraiment passés à autre chose, mais moi je parle d'un échec dans le domaine musical, puisque de nombreux compositeurs finalement compromis ont continué à mener leurs activités, notamment au sein de l'école de Darmstadt, donc ça c'est un problème pour moi.
Et puis il y a eu aussi beaucoup de compositeurs qui ont été récupérés, je dirais, dans des courants. Ils ont continué à faire leur carrière. On pense à Strauss, on pense à Karl Orff, qui a même été joué en Israël dans les années 60.
Voilà. Et quand on parle aussi donc de ces ornières, finalement, ce sont pas forcément des ornières idéologiques, mais ce sont des esthétiques qui ont été prônées, qui étaient parfois trop proches de celles qui étaient prônées sous le Troisième Reich.
Eh bien, écoutez, Élise Petit, infiniment merci. Notre émission est maintenant terminée. Donc, je recommande évidemment à tous nos auditrices et auditeurs de se procurer votre livre, un livre passionnant, Musique et politique en Allemagne du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide, publié aux éditions Presse universitaire Paris-Sorbonne. Vous le trouvez donc chez tous les bons libraires et en ligne, bien sûr. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org où vous trouverez également un lien qui vous permettra de commander le livre. Et bien sûr, vous pouvez y réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes émissions également disponibles sur la rubrique, dans la rubrique podcast sur judaicfm.com. Au micro, Hervé Rotten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
Sugar.
I'm sugar for